Bonjour et bienvenue dans Sans Rendez-vous, votre émission Santé et Bien-être. Pendant une heure, nous allons vous informer, partager des conseils, échanger avec notre invité. Aujourd'hui, le dossier du jour est consacré à l'après-confinement et aux liens avec nos enfants. Nous en parlerons donc avec notre invité Jeanne Siofachin, psychologue clinicienne et psychothérapeute. Pour m'accompagner tout au long de cette émission, on retrouve bien sûr aussi le docteur Damien Mascret, médecin et journaliste au Figaro. Bonjour Damien.
Bonjour Anne, bonjour à tous.
Vous nous parlerez vers 15h50 de sexologie, mais avant cela, il y aura aussi vos conseils pratiques pour l'été. Quel est le programme ?
Alors côté sexo, eh bien, nous allons nous demander comment déjouer les pièges du porno. Et puis dans les petits bobos de l'été, nous allons voir les allergies au soleil.
Et nous sommes ensemble jusqu'à 16h. Soyez les bienvenus dans votre émission Santé Sans Rendez-vous.
Anne Le Gall vous reçoit Sans Rendez-vous sur Europe 1.
Et pour démarrer, on va évoquer justement ces petits bobos de l'été, ces problèmes médicaux qui surviennent souvent au moment des vacances et face auxquels on est parfois désarmé. Alors rassurez-vous, avec les conseils du docteur Mascret, vous allez tout comprendre. Et on parle donc aujourd'hui des allergies au soleil.
Oui, les allergies au soleil, qu'on appelle parfois la lucite, hein, ça c'est plus connu sous ce nom-là, c'est la réaction du système immunitaire en fait. Hein. C'est pas vraiment une allergie au sens propre, mais enfin, en tout cas, ça a un effet, c'est qu'immédiatement, vous avez des parties du corps habituellement couvertes, qui là sont découvertes, je pense évidemment aux épaules, décolleté, bras en tout cas, avant-bras plus rarement, mais c'est vrai que eh bien, tout ça va prendre les premiers rayons et on ne sait pas pourquoi, chez certains ça apparaît, pas chez d'autres, on ne sait pas non plus pourquoi ça disparaît subitement après quelques années.
Ah oui, c'est vrai qu'on en a certaines années, pas d'autres.
Voilà. Et c'est fini, voilà, vous êtes tranquille, bonne surprise cette année, parfois c'est fini.
Et alors on a une question de Simon.
Moi je voulais savoir, je me suis toujours posé la question, j'ai des petits boutons qui apparaissent quand il fait chaud. Est-ce que ça peut être des allergies au soleil ?
Alors oui, c'est possible, c'est la forme classique. Hein,
Alors c'est des petits boutons rouges.
C'est des petits boutons rouges, puis vous pouvez avoir aussi des plaques rouges hein, sur la peau, vous avez un décolleté tout rouge. Alors le signe, c'est surtout que ça démange énormément. C'est d'ailleurs pour ça que votre médecin peut parfois vous prescrire des antihistaminiques hein, pendant quelques jours. Dans les cas sévères, on a même recours aux dermocorticoïdes, c'est-à-dire des pommades qui contiennent à la fois des corticoïdes qui sont des puissances anti-inflammatoires en fait.
Et le visage, vous n'en parlez pas, il n'est pas touché ?
Non, parce qu'habituellement c'est pas touché. Alors on dit pas jamais, hein, jamais. Vous savez, c'est que en politique et en amour, mais en tout cas pas en médecine, ça c'est sûr. Il y a ce qu'on appelle par exemple la lucite polymorphe. La lucite polymorphe, ça apparaît plutôt dès le printemps, dès les premiers rayons là vraiment. Et puis bon, même si cette année confinement oblige, on n'a pas pris beaucoup de soleil au printemps, vous allez me dire. Mais c'est surtout que comme ça touche le visage, c'est très invalidant. Heureusement, c'est plus rare que la lucite estivale bénigne qui, elle, touche environ une personne sur quatre à un moment ou un autre de sa vie.
Et alors, comment on fait pour éviter cette lucite ?
Alors, on peut se préparer au soleil, mais attention, hein, pas de la façon à laquelle beaucoup de gens vont penser.
Donc, pas de cabine UV.
Pas de cabine UV. On sait bien que c'est une catastrophe, hein, parce que les UVA artificiels des cabines de bronzage, non seulement ne vont pas provoquer la réaction naturelle d'épaississement de la peau qu'on aura avec les rayons du soleil, mais en plus, ça favorise les cancers, les mélanomes. Ça fait une vingtaine d'années déjà que l'Académie de médecine essaie de les faire interdire. L'ANSES, l'Agence nationale de sécurité environnementale, en a rajouté une couche il y a 2 ans. Malheureusement, pour l'instant, aucun ministre ne s'est attaqué au problème.
Mais ça arrive quand même que les dermatologues parfois recommandent des traitements à base d'UV. C'est pas la même chose.
Non, là, on est dans la puvathérapie. C'est-à-dire que là, c'est vraiment un cadre très contrôlé, des indications particulières. Par exemple, le psoriasis. Puis bien sûr, c'est fait par un dermatologue. D'ailleurs, c'est remboursé par la Sécurité sociale.
D'accord. Et comment on fait pour préparer sa peau au soleil ? Donc, on ne va pas dans les cabines UV, on a compris.
Non, ça n'y va pas. Par contre, on peut le faire de façon naturelle. Alors, avec le bronzage. Parce que pourquoi est-ce qu'on bronze ? Parce que notre peau va nous protéger quand on est justement exposé au soleil, c'est-à-dire va s'épaissir, va sécréter à travers les mélanocytes un petit pigment qui va noircir, bronzer hein, finalement la peau. Et c'est ça qui va filtrer en partie, les rayons du soleil.
On y va doucement,
surtout à certaines périodes, hein, entre 12h et 16h, voire même avant. Hein, si vous vous rapprochez de l'équateur, attention, hein, vous êtes, ou dans l'hémisphère sud, il faut vraiment faire attention au soleil de midi. Et c'est vraiment des créneaux qu'il faut éviter pour bronzer.
Et les petites gélules qui sont censées préparer la peau au soleil, vous en pensez quoi ?
Alors, bon, c'est vrai que certains vont les donner, mais non, vraiment, la meilleure préparation, c'est d'y aller progressivement, avec modération les premiers jours. D'ailleurs, on évite les bains de soleil les premiers jours. La simple exposition que vous aurez un petit peu au soleil va activer tous vos mélanocytes. Donc, ça va commencer à vous colorer joliment la peau, d'ailleurs. Ça vous évitera, au passage, la lucite estivale, si justement vous y allez très progressivement. Attention tout de même, évidemment, à même bronzer, le bronzage ne filtre pas tous les UV. Donc, si possible, mettez un t-shirt, en particulier aux enfants. N'oubliez pas, évidemment, les crèmes solaires.
Indice 50, c'est possible.
Au moins.
Merci beaucoup, docteur Damien Mascret.
Europe 1.
À suivre dans cette émission le dossier du jour. Il est aujourd'hui consacré à l'après-confinement et aux liens avec nos enfants. Durant 3 mois, les familles ont vécu collées serrées. Certains liens se sont renforcés, mais il y a aussi eu des tensions. Alors, quels enseignements peut-on déjà en tirer? On en parle dans un instant.
Europe 1, sans rendez-vous. Anne Le Gall.
Il est 15h10, vous écoutez Sans Rendez-vous, nous sommes ensemble jusqu'à 16h et à mes côtés dans ce studio, le docteur Damien Mascret, médecin et journaliste au Figaro et notre invité du jour. Bonjour Jeanne Siofachin.
Bonjour Anne.
Vous êtes psychologue, clinicienne et psychothérapeute. Évidemment, vous êtes auteur de nombreux livres sur la famille, sur les apprentissages. Et l'on va parler avec vous aujourd'hui du lien à nos enfants après le confinement. Alors tout d'abord, bon, évidemment, ce moment de huis clos familial, ça n'a pas été le même pour tout le monde. Ça dépend des conditions de logement, ça dépend des liens familiaux. Mais globalement, est-ce que les enfants s'en souviendront ou ce sera un souvenir parmi d'autres comme ça ?
Oh là là, il y a beaucoup de questions dans votre question. Alors, je vais prendre par le dernier morceau. Moi, je trouve que c'est très important qu'ils s'en souviennent. Je crois qu'il faut cultiver ce souvenir. Parce que ce printemps 2020 sera dans les livres d'histoire. Et nos enfants, ils ont vécu cette période. Ils sont la mémoire vivante de ce moment-là. Que le moment a été douloureux, que le moment a été sympa, que le moment a été joyeux, que le moment a été compliqué. Ils font partie de notre histoire. Nos enfants à cette époque-là. Et ils sont le témoin vivant de ça. Et je crois qu'il faut entretenir cette mémoire, en faire un souvenir très vivant.
Très exceptionnel. Damien Mascret.
Oui, alors justement, j'entendais dire que pour certains, c'est la première fois que la planète vit, tout le monde quasiment en même temps, un événement de cette importance. Est-ce que vous pensez que ça peut créer une nouvelle forme de lien, finalement, entre les peuples ?
Alors, entre les peuples, je ne suis pas sûre d'avoir la légitimité pour y répondre. Mais dans les familles, oui, en tout cas, on l'a observé. C'est-à-dire que nous, Cogitos, on a ouvert une hotline, par exemple, le premier jour.
Alors, c'est le centre que vous avez créé,
ouais,
Cogitos.
Centre, pardon, le centre de psychologie. Et donc, ça nous a permis, et puis de voir les différentes vagues, les différents moments qu'ont traversé les familles. Mais de toute évidence, ça a ouvert des possibles qui n'existaient pas. C'est-à-dire que ça crée une forme d'alchimie, parce que tout le monde a été surpris. Les enfants ont été surpris d'avoir sous leurs yeux leurs parents qui travaillent.
Oui, ils les ont vus travailler pour la première fois, peut-être. Oui, pour ceux qui étaient en télétravail. Oui.
Oui, mais beaucoup les ont vus travailler. Et ça a été tout à fait passionnant parce que ne serait-ce qu'un parent qui travaille, qui est en réunion sur son écran, il n'a pas la même tête. Mm-hmm. Il ne parle pas de la même façon. Il ne s'exprime pas de la même manière. Or, l'enfant ne voit que la partie parent. C'est comme les faces de la lune. C'est la face cachée du parent. Et il y a eu beaucoup de surprises et d'inattendues. Et de la même façon, les parents, par la force des choses, ils ont vu leurs enfants sous leurs yeux toute la journée. Et bien sûr, avec ce fameux travail scolaire.
Voilà, on les a aussi vus travailler.
Oui, voilà. Faire des exposés, même. J'ai vu un exposé.
Mais ils ont été surpris. C'est-à-dire que ceux qui pensaient que leurs enfants étaient très paresseux, n'étaient pas motivés, s'en fichaient complètement, se sont rendus compte que leurs enfants étaient au contraire sérieux, acharnés et se mettaient vraiment au boulot. Ceux qui pensaient que leur enfant était flemmard se sont rendus compte qu'ils avaient des vraies difficultés. D'autres parents se sont rendus compte des talents de leur enfant et de certaines capacités qu'ils n'avaient pas forcément observées. Donc ça a complètement modifié cet univers intrafamilial de toute évidence.
Alors, si l'on en croit une enquête menée par Milan Presse et la Fondation Varenne auprès de 950 familles, globalement, les familles ont plutôt tiré des aspects positifs de ce confinement. Et il y a eu beaucoup de temps passé ensemble, il y a eu des activités qui ne se faisaient pas habituellement, la cuisine, les activités manuelles. Est-ce que les enfants que vous voyez en consultation vous parlent de ça, vous parlent spontanément des bons souvenirs ?
Alors, les enfants, ils ne parlent pas tout à fait comme ça en réalité. On fait beaucoup d'adultomorphisme en général avec les enfants, c'est-à-dire qu'on a vite tendance à projeter sur eux ce que nous, adultes, on pense. Les enfants, tous les enfants qui râlent en disant que leurs parents sont de piètres professeurs et que c'est insupportable et que vivement
c'est
l'école.
Pas faux, on est moins bons que les professionnels, c'est sûr.
Non, on est en tout cas différents. C'est-à-dire que, mais pour les enfants, c'est assez binaire, hein, c'est bien ou c'est pas bien. Et puis, il y a tous les autres enfants qui, à l'inverse, ont trouvé ça formidable, cette proximité. Mais ils racontent pas une histoire continue. Ils disent pas « Ah, c'était tellement bien ». Non, c'est plutôt « C'était bien d'être à la maison ».
Voilà.
« C'était bien d'être ensemble » ou « C'était insupportable ». Mais toujours pareil, en deux.
D'accord, c'était bien de ne pas avoir d'horaire, moins de pression,
oui,
moins de stress.
Oui, alors ça, c'est sûr que les ados qui ont pu vaguement ouvrir leur ordi de leur lit enfoui sous leur couette, c'était formidable pour certains, mais pas pour tous. Hein. Il y a eu beaucoup d'inquiétudes quand même hein, chez les ados en particulier.
Damien Mascret.
Et est-ce que les enfants qui avaient des difficultés initialement, alors sur le plan psychologique ou autre, ont été plus vulnérables à cette période ou ce n'est pas forcément un facteur de risque qu'on a vu émerger?
Ça a été plutôt le contraire pendant la période, parce que en réalité, beaucoup d'enfants, alors après c'est difficile de faire un grand tout, mais on va dire que les enfants plutôt inquiets, plutôt anxieux, qui ont facilement des angoisses de séparation, qui ont un peu peur des autres, etc., ils se sont sentis en sécurité, ils se sont sentis dans un cocon protecteur, ils étaient mieux finalement à la maison. Ils avaient moins d'enjeux d'être avec les autres. Et puis, même ceux qui, et ça c'est assez marrant, ceux qui ont des difficultés à l'école, des difficultés même qui ont été diagnostiquées, même tous les dyslexiques, les dyspraxiques, ces enfants-là, ils ont pu travailler à leur rythme. Donc ça a été beaucoup plus simple pour eux. Ils ont repris confiance en eux.
Plus d'autonomie.
Et voilà, ils ont repris confiance en eux. Et de l'autre côté, on a les enfants qui ont plutôt développé des inquiétudes diverses, en particulier parce qu'on leur a quand même dit que c'était la guerre. À ces enfants-là.
Oui. Et oui, président
que tous les jours, et que tous les jours, en fait, c'était plus la météo, mais c'était le nombre de morts.
La carte, voilà.
Et que les enfants, ils ont entendu ça en boucle avec des parents qui, eux-mêmes, n'étaient pas capables de décoder et d'expliquer. Et il n'y avait pas une possibilité de filtrage par les parents. Donc les enfants, ils se sont pris toutes les inquiétudes, même non dites, des adultes de plein fouet. Et personne n'a pris la peine d'expliquer aux enfants ce qui se passait. Personne.
Et ça, c'est vrai, même si on n'était pas exposé directement aux informations, les enfants le voyaient à travers les parents.
Oui, bien sûr, ils le sentaient. Les enfants, ils ont quand même cette capacité à tout percevoir. Et bien évidemment, ils ont bien capté, même les très jeunes, qu'il se passait quelque chose de grave. Mais où on ne pouvait pas mettre de sens, parce que personne ne pouvait mettre de sens. Enfin, il ne s'agit pas du tout d'accabler les parents, bien au contraire. Mais personne ne pouvait donner d'explication. Et du coup, pour les enfants, c'était une information brute, sans filtre. Et ils n'arrivaient pas à la penser eux-mêmes.
Le confinement, ça a été aussi beaucoup de temps passé entre frères et sœurs. Alors voilà, il y a peut-être eu une complicité forcée. Est-ce que ça, c'est un atout pour la suite, pour les fratries?
Alors, c'est très difficile, pardon.
Mais ça dépend des cas, évidemment.
Voilà, c'est ça, c'est très difficile parce qu'on a vraiment, une fois encore, vu les deux côtés de la même chose. C'est-à-dire qu'il y a des conflits qui se sont exacerbés et des frères et sœurs qui n'ont pouvaient plus supporter. Mais ça a été dans des tensions et des bagarres violentes. Hein. Les parents, ils appelaient sur la hotline pour ça, hein, parce qu'ils n'en pouvaient plus. Et à l'inverse, il y a eu beaucoup de complicité dans l'aide. C'est-à-dire les plus grands qui aidaient les plus jeunes à travailler, par exemple, ou qui faisaient jouer un plus jeune parce que les parents n'avaient pas le temps, ou un plus jeune qui commençait à comprendre le monde de son aîné, ou les jeux auxquels jouait son aîné, ou se retrouvait à discuter avec les copains de l'aîné par écran interposé, parce qu'il fallait bien qu'il soit quelque part, ce plus jeune. Donc ça leur a permis de se découvrir mutuellement. Vraiment, il y a eu ce truc de découverte des enfants vis-à-vis des parents, des parents vis-à-vis des enfants et des enfants entre eux.
Voilà, et tout a été exacerbé dans un sens ou dans l'autre.
Absolument.
On continue dans un instant d'évoquer ces liens familiaux après le confinement avec vous, Jeanne Siofachin.
Europe 1.
Et l'on va parler des vacances comme période de transition pour que chacun retrouve son espace, son autonomie. On se retrouve dans un instant dans son rendez-vous. À mes côtés dans ce studio, le docteur Damien Mascret, médecin et journaliste au Figaro, et notre invitée du jour, Jeanne Siofachin, psychologue clinicienne, auteure de nombreux livres sur la famille et sur les apprentissages. On continue de parler de l'après-confinement et des relations parents-enfants. Alors, pendant le confinement, à 80%, c'est toujours l'enseignement du sondage dont je vous parlais, le sondage Milan Presse, Fondation Varenne, à 80%, les grands-parents ont manqué aux enfants. Alors aujourd'hui, ils peuvent se voir, mais il y a quand même une distance, il y a des gestes barrières. Comment expliquer aux enfants qu'on peut montrer son affection autrement qu'avec des accolades, des câlins, des bisous ?
Ça a été grand, ça a été vraiment le grand enjeu de cette période pour les enfants, hein. C'est-à-dire comment pouvoir exprimer à l'autre qu'on l'aime et qu'on est proche, même si on est loin. Et ça, ça a été difficile, bien sûr, avec les grands-parents. Alors, les plus grands l'ont compris, mais les plus grands ont eu peur. Moi, j'ai eu beaucoup d'adolescents qui nous ont appelés et de familles qui étaient inquiètes parce que les grands-enfants ont été inquiets. À cause du virus, bien évidemment, et de la crainte pour leurs grands-parents, qu'il arrive quelque chose aux grands-parents et qu'ils ne revoient plus leurs grands-parents. Il y a eu vraiment quelque chose autour de ça. Et après, il y a eu beaucoup quand même de créativité pendant ce confinement. Moi, je trouve ça magique, tout ce, finalement, qu'on est
les
capable
messages,
de créer.
Les petites vidéos.
Les apéros ceci. Alors moi, par exemple, ce que j'avais conseillé aux grands-parents et aux enfants, et ça a super bien marché, c'est qu'un enfant petit, au téléphone, il ne sait pas dire. Il va... C'est difficile
oui,
d'avoir
de tenir une conversation.
J'ai dit,
ouais.
j'ai dit aux grands-parents et aux enfants, mais jouez. Alors, ils se sont mis à jouer aux petits chevaux, oui. Ils se sont mis à jouer aux cartes, ils se sont mis à jouer, à faire, c'est-à-dire par écran interposé, mais à jouer.
Des cours de maths à distance aussi.
Oui,
des
mais
cours
du coup, dans ce lien affectif.
Avec les grands-parents.
Voilà.
Dans ce, oui, avec les grands-parents aussi. Il y a les grands-parents qui ont été sollicités par les parents pour venir à la rescousse, pour donner un coup de main pour le travail scolaire. Mais de jouer, parce que ça passe beaucoup par le jeu. Le jeu est un formidable médiateur pour un enfant. Et donc ça, c'était génial parce qu'ils retrouvaient les enfants ce sentiment de sécurité affective avec leurs grands-parents. Plutôt que de dire « Ah, mais ma chérie, comment tu vas ?»« Bah, ça va, toi et mamie, toi, comment tu vas ?» C'est un peu factice pour un enfant.
Damien Mascret.
Finalement, les moyens modernes avec les écrans, la possibilité de se voir, voire de poser la tablette ou l'ordi à côté et rester un petit peu en communication pendant un moment, ça a du bon pour une fois.
Oui, et du coup, ça me fait penser aussi à quelque chose que j'ai proposé en particulier aux grands-parents, c'est de lire une histoire le soir.
Ah oui,
alors les grands-parents, ils avaient rendez-vous avec leurs petits-enfants et ils lisaient l'histoire. C'était magique! Et ça permet de faire perdurer le lien. C'est des petits trucs, mais c'est des petits trucs qui changent beaucoup de choses.
Et qui peuvent toujours perdurer pendant l'été.
Mais,
là,
bien sûr,
du coup.
Mais bien sûr.
Certains parents ont hésité à envoyer leurs enfants cette année en colonie de vacances, à la fois pour des raisons d'organisation sanitaire, de place, mais aussi parce que garder ses enfants près de soi, dans le cocon, cette année, c'était plus facile. Est-ce que ça vous surprend ?
Un peu, parce que, très sincèrement un peu, parce que, en tout cas, moi, de mon expérience, c'est ce que j'ai entendu des parents, ils étaient quand même assez contents de, enfin, ne plus avoir les enfants à la maison. Mais c'est vrai que d'autres parents ont
trouvé... Il y a un peu d'inquiétude.
Bien sûr, puis ont trouvé beaucoup de satisfaction d'être de nouveau les parents, les parents doudous dont leurs enfants ont besoin et leurs enfants doudous dont eux-mêmes ont besoin. Donc après, c'est toujours pareil, c'est toujours cette histoire de séparation.
Oui, vous avez parlé tout à l'heure de l'angoisse de séparation. C'est vrai qu'il y a des enfants pour qui, ça, du coup, c'est plus difficile maintenant peut-être de se re-séparer des parents.
C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se rejoue. D'autant plus qu'il demeure une incertitude aujourd'hui autour de ce virus, de la circulation du virus, de règles sanitaires. Et donc, il y a eu par exemple chez les enfants quelque chose qui était très embêtant, c'est que comme on ne savait pas trop comment parler aux enfants, en tout cas dans les familles par exemple, on leur a dit que les autres étaient dangereux, qu'il fallait se méfier des autres.
Oui, au début, oui.
Donc ça a été terrible. Et l'importance de bien faire la distinction entre c'est pas l'autre qui est dangereux, c'est le virus qui est dangereux. Parce que sinon, dans les premiers jours d'école, par exemple, ça a été terrible ça, hein. Terrible.
Alors, les enfants, justement, n'ont pas profité dans les premiers jours du confinement de leurs copains. Est-ce que là, pendant l'été, on lâche la bride, ils voient leurs copains, ils font ce qu'ils veulent, il y a beaucoup d'autonomie. Est-ce que c'est ça que vous conseillez ?
Alors, moi, je pense que tout le monde a besoin de souffler. Je pense que, sincèrement, quelle que soit la façon dont on a vécu le confinement, adulte ou enfant, ça nous a fatigués. Et pourquoi ça nous a fatigués ? Ça nous a fatigués parce que ça a obligé notre cerveau à adopter de nouvelles façons de faire. On a été obligé de sortir de nos rituels, où on vit avec des routines quotidiennes, et tout d'un coup, tout a été à la mesure de notre réflexion. Comment je fais pour préparer des repas ? Qu'est-ce que je fais comme course ? Où est-ce que je vais ? Est-ce que je vais ici ? Est-ce que je décide ça ? Comment je m'organise pour le travail ? Comment je m'organise pour mon boulot ? Tout a fait l'objet d'une réflexion avec le cerveau, avec le mental, avec l'intelligence. Et ça, c'est hyper fatigant. Je trouve qu'on n'en a pas beaucoup parlé, mais c'est vrai que c'est hyper fatigant et que donc, du coup, on a besoin tous de mettre notre cerveau en vacances et de plus avoir de décisions à prendre, plus avoir d'organisation à mettre en place. Et les enfants aussi, ils ont besoin de respirer au sens propre et au sens figuré.
Damien Mascret.
Vous voulez dire que finalement, sans prolonger hein, bien sûr l'effet du confinement, on peut avoir des vacances un petit peu différentes de celles qu'on a d'habitude ?
Bah peut-être, en tout cas, une espèce de besoin de ne pas se créer de nouvelles obligations.
Privilégier la liberté.
Privilégier, c'est ça, de ne pas forcément se dire, de se programmer un stage de je ne sais pas quoi, où il va falloir encore se mobiliser, mobiliser son cerveau, mobiliser son corps pour encore apprendre quelque chose de nouveau, mais plus laisser vagabonder son corps, son esprit, se promener, se balader, lire, flâner, rêver, rêvasser, s'ennuyer. C'est magique de s'ennuyer.
Et alors, il y a sans doute eu aussi un relâchement là, sur la fin d'année scolaire au niveau de la gestion des écrans et des horaires. Alors là, on resserre un peu la vis tout de suite ou on verra ça à la rentrée ?
Bah, moi, si vraiment vous me demandez vraiment, Anne, mon avis...
Allez-y,
mon
je vous
vrai
demande.
Avis de vrai, c'est qu'on leur fiche la paix.
On leur fiche la paix. Bah, c'est très bien, c'est très clair comme ça. On va parler tout à l'heure des devoirs, mais juste rapidement, pendant les vacances, on propose des cahiers de vacances ou pas ?
Mais c'est aux vacances de faire leurs devoirs de vacances.
Donc il faut que les enfants
jouent.
Donc
c'est aux vacances de faire leur boulot de vacances. C'est-à-dire vacances, ça veut dire rien. Donc,
rien du tout.
Rien. Je veux dire, de toute façon, on sait que ça ne sert à rien, les devoirs de vacances, si ce n'est à recréer de nouveaux conflits et de nouveaux stress. Maintenant, si un enfant a absolument envie et prend du plaisir à travailler pendant les vacances, bien sûr, bienvenue, tout va bien. Mais point.
Alors voilà, enfin la vérité, parce que moi j'ai eu droit au cahier de vacances en été, bon, une seule saison.
Et ça
mais
vous
quand
a
même,
traumatisé.
Ça m'a un petit peu traumatisé, j'en ai jamais infligé à mes enfants. Mes parents se persuadaient que ça m'a fait du bien, peut-être remarqué. Mais franchement, oui, je trouve que ça gâche un petit peu les vacances.
Mais oui, et puis ça crée une culpabilité permanente, parce que du coup, le parent contrôle de savoir si on a avancé, l'enfant se retrouve encore avec une anxiété de performance. Enfin, c'est. On regarde les fleurs, on lève le nez au ciel. On chantonne et tout va bien.
Et tout va bien. On va poursuivre cette discussion dans un instant avec vous, Jeanne Thiaud-Fachin. On va se projeter un petit peu, d'ailleurs, dans la rentrée de septembre, tout à l'heure, avec le retour à l'école, le retour au bureau pour les parents. Mais tout de suite, un peu de musique.
Anne Le Gall sur Europe 1.
Vous écoutez Sans Rendez-vous, votre émission Santé, Bien-être. Autour de la table, dans ce studio, le docteur Damien Mascret, médecin et journaliste au Figaro. Et notre invité du jour, Jeanne Thiaud-Fachin, psychologue, psychothérapeute à Paris. On essaie de se projeter là un petit peu vers la rentrée après cette période de confinement. Alors pas trop de pression, hein, mais c'est vrai que vous êtes spécialiste des apprentissages. On va en profiter. L'année scolaire a été un petit peu tronquée. Alors déjà, qu'est-ce qu'il faut dire à un enfant qui s'angoisse déjà pour la rentrée ?
Bah que, en fait, il faut surtout considérer qu'il a le droit d'être angoissé et lui dire « Ok, mais moi je comprends que tu sois angoissé, parce que c'est vrai que ça fait peur de retourner à l'école après tout ce temps. Et finalement, qu'est-ce que c'est qui te fait le plus peur à toi ? Qu'est-ce que c'est qui t'inquiète le plus ? » C'est-à-dire ne pas lui dire « Mais écoute, non, tu n'as aucune raison, tu vas retrouver ton école, tu vas retrouver ton environnement, tu vas retrouver tes copains, surtout ne t'inquiète pas. » C'est très important de prendre en considération que l'enfant peut avoir un peu la trouille et que c'est normal.
Donc on le laisse exprimer ça.
Mais surtout qu'on lui dit « Mais écoute, tu sais, c'est normal que tu aies un peu peur, c'est normal. » Et du coup, l'enfant va beaucoup mieux quand sa peur est légitimée par les parents. Ça ne veut pas dire qu'on va lui dire « Oui, mais c'est normal, tu sais, il faut avoir peur. » Non, au contraire. C'est normal d'avoir peur. Qu'est-ce que c'est qui te fait vraiment peur ? Et comment je peux t'aider pour avoir moins peur ?
Damien Mascret.
Oui, vous trouvez qu'on oublie trop souvent de poser la question aux enfants de ce qu'ils pensent ou de ce qu'ils ressentent, parce qu'on considère un petit peu que c'est forcément dit ou acquis ?
Bah, c'est-à-dire que oui, parce qu'une fois encore, on projette beaucoup ce que nous, on craint sur les enfants et qu'on pense qu'ils ont les mêmes peurs. Par exemple, souvent, la peur de la rentrée, c'est souvent la peur des adultes. Hein, et la peur, par exemple, qu'il y ait des règles, qu'il y ait des nouvelles consignes, etc. Mais les enfants, ils ont hyper l'habitude d'avoir des règles et des consignes. Pour eux, c'est pas un truc tout à
c'est
fait...
C'est vrai que même mais sans non, virus,
mais c'est
oui,
ça,
il y a des règles
à l'école. Ils n'ont plus de toute façon des règles et des consignes à l'école. Alors une consigne de plus, une consigne de moins, ça fait juste un truc à rentrer dans leur circuit interne. Mais c'est pas un drame. Alors que pour les parents, ils disent « Oh là là, mais il va falloir en plus qu'ils fassent ceci, en plus cette consigne-là, en plus qu'ils comprennent qu'il faut marcher sur le bleu et pas sur le vert. » Mais les enfants, pour eux, c'est... Même moi, je me souviens, là, juste après le confinement, une petite fille qui est en CE2, je crois, qui me disait « C'est marrant, on se croirait dans un jeu de piste, alors il faut passer sur les points bleus, on
peut parler... »
Voilà. Et puis, on ne peut parler qu'avec les gens qui sont sur un fauteuil bleu. C'était un jeu, en fait. Et ça ne l'inquiétait pas du tout, alors que les parents en faisaient une...
C'est vrai qu'on a vu parfois des images sorties de leur contexte qui pouvaient être un petit peu affolantes.
Les images de cours de récré avec les enfants à distance.
Alors qu'en réalité, les enseignants eux-mêmes ont fait preuve de créativité pour rendre ça plus ludique que ce qu'on a comme projection, peut-être quand on voit des images choquantes.
Mais les enseignants ont été pour la plupart formidables, parce que quel enjeu pour eux de trouver des idées, de faire marcher leur imagination pour accueillir les enfants dans de bonnes conditions, pour justement masquer eux-mêmes leur trouille, leur manque de directive totale, tout était open, ils pouvaient faire n'importe quoi. Et ils ont fait beaucoup de trucs. Parce que même l'histoire qu'on a beaucoup vue en boucle, les enfants dans des carrés dans la cour, mais quand on joue à... Je ne me souviens plus comment s'appelle ce jeu, qui est plus un jeu de mon enfance, mais je déclare, parce qu'évidemment c'est plus tout à fait le...
Colamaillard
la... Non, le je déclare la guerre. Ah, il y avait un rond à l'intérieur et on partait en courant. Et après on prenait des morceaux de territoire.
J'ai joué à la balle aux prisonniers.
Et voilà.
On aurait pu faire un ballon Covid, mais bon.
Mais non, mais ce que je veux dire, c'est que les enfants, ils ont joué à chaque corona, par exemple. C'est génial.
Chaque corona ?
Mais oui.
Ça m'a échappé.
Mais oui, à chaque corona. Parce que du coup, effectivement, le but du jeu, c'était de ne pas attraper le virus.
D'accord.
Donc, il fallait trouver des trucs pour ne pas attraper le virus. Mais c'est génial. Les enfants sont pleins d'imagination. Donc, voilà, ça fait partie de leur environnement si on ne crée pas trop d'inquiétude autour de ça et qu'on ne fait pas tout monter, finalement, comme un truc insupportable. C'est vrai que c'est compliqué, mais c'est beaucoup plus compliqué pour les adultes, je me répète. Mm-hmm. Que pour les enfants, qui le vivent de façon beaucoup plus tranquille si la pression n'est pas mise par les adultes.
Alors c'est vrai qu'il y a eu un énorme investissement des enseignants, mais malgré tout, il y a eu quand même un trou dans le parcours scolaire. À quoi les parents vont-ils devoir être vigilants à la rentrée concernant les apprentissages ? Alors peut-être que c'est peut-être pas une année si inhabituelle, une rentrée si inhabituelle que ça, mais est-ce qu'il y a des choses à surveiller ?
Il y a des enfants qui disent qu'ils ont peur d'avoir perdu le niveau. C'est vraiment leur phrase. Mm-hmm. J'ai peur d'avoir perdu le niveau. Hein, c'est-à-dire, donc on est dans quelque chose de l'ordre de la comparaison. Parce que ce qu'on n'a plus pu faire pendant le confinement, ce que les enfants n'ont plus pu faire, c'est se comparer aux autres.
Voilà, c'est évaluer dans la classe.
C'est ça. Du coup, ils étaient en mode solo. Et du coup, ils ne savent pas comment les autres ont avancé. Donc la plus grande des appréhensions, contrairement à ce que nous, adultes, on pourrait penser, c'est savoir comment les autres ont avancé et savoir si, finalement, ils n'ont pas trop perdu par rapport aux autres, pas par rapport à eux. Et puis, il faut être tranquille par rapport à l'école. L'école est un système, c'est comme les points arrière en couture. Hein, c'est une histoire de boucle rétroactive permanente. Donc, on revient toujours sur les trucs qu'on a déjà vus une première fois, une deuxième fois, une troisième fois, et on revient, et on revient, et on repart en arrière. Donc, aucun stress.
Donc, si on rate une étape, c'est pas grave, on y reviendra.
Mais de toute façon, on y reviendra 10 fois.
Alors, pour les grands-enfants, on va passer au niveau supérieur. Pour les grands-enfants qui ont terminé leurs études, peut-être qui démarrent leur vie professionnelle, là aussi, il y a pu avoir des changements dans les stages en fin d'année. Il y a peut-être une inquiétude par rapport à l'avenir. Comment être présent en tant que parent sans être envahissant envers des enfants qui sont adultes ?
Bah oui, mais ça pose un vrai autre problème. Hein. Ça, je suis vraiment d'accord. Et surtout tous ces enfants qui ont été privés de ce rite de passage qu'est le bac. Mmh. On se souvient tous du jour où on est allé regarder nos résultats du bac. Tous, on a quelque chose en nous, gravé dans le cœur de ça.
Ah oui, on a tous l'image.
Et c'est un rite de passage hyper important. Donc moi, je suis très favorable au fait de faire des rites de changement de vie, de trouver des idées avec les copains pour marquer quelque chose, pour qu'il y ait un tempo qui soit marqué, parce que c'est ça qui, dans cette génération-là, cette génération 2020 a été privée. Et moi, je trouve, pour conclure là-dessus, qu'il faut qu'ils s'emparent de cette génération 2020. Ils ont quelque chose à... C'est un peu comme les étudiants de mai 68. Mmh. Il faut qu'il y ait une génération 2020. Et c'est à cette génération-là de créer quelque chose. Il faut qu'ils trouvent...
Il faut les valoriser,
Les valoriser, c'est génial. Vous êtes la génération 2020. Mmh.
Vous pensez qu'on devrait leur remettre d'une façon officielle, cérémonieuse...
Presque.
Un diplôme de leur bac, finalement ?
Ah mais totalement, et c'est pas du tout fake, enfin c'est pas du tout bidon, c'est pas factice, c'est un truc hyper
c'est
important,
rituel.
Mais on devrait leur dire, voilà, le bac 2020, c'est un truc tellement inattendu dans l'histoire, ça me donne la chair de poule rien que de vous le dire, c'est un truc hyper important, et moi je trouve que si cette génération-là pouvait vraiment s'emparer de ça, ça serait une grande réussite.
Voilà, une idée pour le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer.
Hein. Bah oui, le, ministre, voilà.
Le diplôme.
Il est toujours ministre.
Oui, oui. Oui, merci beaucoup, Jeanne Siofachin, d'être venue nous éclairer. On rappelle le titre de votre dernier livre. C'est « S'il te plaît, aide-moi à vivre », un livre paru chez Odile Jacob. Merci beaucoup.
Je peux dire encore un mot. Allez-y. Et on en sort un autre, là, aux éditions Le Duc, pour expliquer, de Sophie Carquin, pour expliquer le virus aux enfants.
Et bien voilà, c'est noté. Merci à vous. On continue cette émission. Restez bien à l'écoute si vous voulez profiter des 3 conseils judicieux d'une nutritionniste pour améliorer vos habitudes alimentaires cet été. Et puis, il y aura bien sûr aussi la chronique sexo de Damien Mascret. A tout de suite.
Sans rendez-vous, 15h, 16h sur Europe 1. Anne Le Gall.
Votre émission Santé sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h. Nous sommes toujours en compagnie du docteur Damien Mascret, médecin journaliste au Figaro. Et tous les jours, vers 15h40, nous parlons de psychologie et des habitudes personnelles pour améliorer le bien-être au quotidien. Tous les jours, un expert nous donne ses pistes, ses secrets, ses astuces. Alors aujourd'hui, c'est le docteur Laurence Plumet qui est en ligne avec nous. Bonjour Laurence.
Bonjour Anne et bonjour à tous.
Vous êtes nutritionniste à Paris. Votre dernier livre s'intitule « Le monde merveilleux du gras, toutes ces rondeurs qui nous habitent », un livre paru chez Erol. Alors aujourd'hui, c'est vous qui allez nous aider à améliorer nos habitudes quotidiennes. Vous allez peut-être nous aider à nous réconcilier avec notre gras, avec nos rondeurs. Si je vous demande 3 idées comme ça pour nous réconcilier avec nos bourrelets, vous nous dites quoi, Laurence Plumet?
Ben écoutez, je vais même vous proposer de faire la paix avec plusieurs types de gras. En
super.
Fait, le gras, c'est okay, un organe qui serait... Ben oui, il y en a un peu partout dans notre corps et surtout, il y en a à 3 endroits que tout le monde connaît bien. Il y a les cuisses avec la fameuse cellulite, mm-hmm. Il y a le ventre avec le ventre, le gras dans les profondeurs du ventre, ce que j'appelle le ventre dur. Et
d'accord.
Puis, il y a le gras un peu plus superficiel qui est ce bourrelet tant redouté des femmes et que j'appelle le ventre mou.
Bon. D'accord. Alors,
donc,
il faut se réconcilier avec tout ça ou... Alors, on commence
oui,
par la cellulite,
possible.
Peut-être.
Ah oui, 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 c'est possible et il faut le faire. Donc, on va commencer par la cellulite, si vous êtes d'accord.
Très bien.
Bon. Alors, la cellulite, d'abord, on va commencer par une mauvaise nouvelle et après, on termine par la bonne. La mauvaise nouvelle, c'est que la cellulite est assez peu sensible à l'alimentation. Mm-hmm. Mais par contre, elle est très sensible à l'action mécanique. Parce qu'il faut savoir que la cellulite, ce sont des cellules graisseuses qui sont entourées de fibrose. Et grâce à l'action des massages, on arrive à casser cette fibrose et donc à rétablir la connexion entre les cellules graisseuses et le milieu intérieur. Puis en plus, ça permet d'améliorer le retour veineux et d'avoir les jambes moins gonflées l'été, surtout quand il fait chaud. Mmh. Donc je recommande pour ceux et celles qui ont la chance d'être en bord de mer, de profiter de la mer, de nager le plus souvent possible dans la journée. Si les personnes sont en club, de faire des séances d'aquagym tous les jours, c'est excellent pour la cellulite des cuisses. Et puis sinon, de se faire masser et de se faire masser toujours du bas vers le haut pour faciliter le
des
retour veineux. Des pieds
vers la tête, d'accord.
Oui, et à la limite, un bon massage, on sent bien que ça comprime la cellulite hein, et que ça, voilà, ça améliore la circulation et ça fait une peau plus belle, on voit moins l'aspect de peau d'orange. Et avec un peu de chance, on peut avoir perdu un petit centimètre en fin de
d'accord,
vacances.
D'accord, du
voilà.
Sport et des massages, d'accord.
Exactement, pour l'instant c'est sympa. Hein.
C'est bon. Sympa. Ensuite,
alors...
le gras dur, celui du ventre.
Alors, le gras dur, le gras profond. Alors ça c'est un gras qui se trouve autour de nos viscères, donc dans les profondeurs de notre ventre. Et comme ça repousse la paroi abdominale, ça donne cet aspect de ventre un peu proéminent et surtout très dur. Alors ça c'est de la mauvaise graisse parce qu'elle favorise l'apparition de diabète, d'hypertension, de cholestérol au fil des années. Et il ne faut donc absolument pas la garder cette graisse. Alors... ça, c'est pour la mauvaise nouvelle, mais la bonne nouvelle, c'est que ce type de gras profond est très sensible à l'alimentation et à l'activité physique. Donc, c'est
ça,
le
c'est
moment...
une bonne nouvelle.
Ah ben oui, parce qu'en plus, il fait beau, il fait chaud, on a envie de manger des légumes, ça tombe bien. On va réintroduire davantage des légumes dans nos assiettes, on va en manger à midi et le soir, et on va diminuer notre consommation de pain et de féculents, et bien évidemment de sauce. Mais vous voyez, l'été se prête très bien à la perte de poids, parce qu'on n'a pas envie de manger gras, s'il fait chaud, on a plutôt envie de manger des légumes. Alors,
d'accord.
Par ailleurs,
on arrête les féculents, ça marche.
Ouais, ça c'est bien. Il va falloir faire attention au sucre, parce que l'été, les vacances, c'est souvent les glaces, les sorbets, les esquimaux. Alors mon petit conseil, il vaut mieux prendre une glace qu'un esquimau. La glace est 3 fois moins calorique qu'un esquimau, première
les
chose.
Les sorbets, d'accord.
Oui, glace ou sorbet, hein, mais l'esquimau est beaucoup plus calorique. Concernant aussi tous ceux qui vont sur les plages vous proposer des churros, des chichis, des pralines, il faut savoir que ce sont des vraies bombes caloriques. Là-dedans, c'est plein de gras, c'est plein de sucre. Alors bien sûr, on a envie de se faire plaisir, on est bien, on est allongé sur notre serviette, voilà. Alors, mon petit conseil, c'est plutôt que de s'avaler ces bombes caloriques, bien l'idéal, ce serait de penser à emmener avec soi dans sa glacière des tranches de pastèque bien fraîches. C'est absolument délicieux, c'est un goût sucré, c'est frais, c'est quasiment zéro calorie et ça fait plaisir.
D'accord, voilà. Donc la pastèque, c'est pour lutter contre le gras du ventre, par exemple.
Oui, attention aussi à l'alcool, aux apéritifs. Là aussi, on est à 300 calories, le cocktail d'alcool et de sirop de canne à sucre, whisky, soda et compagnie. Donc, moi, mon petit conseil, alors pour ceux qui aiment le jus de tomate et la petite rondelle de citron, c'est super. Mais pour ceux qui ont envie quand même de prendre un petit peu d'alcool, le petit verre de vin rosé bien frais, c'est trois fois moins calorique qu'un whisky soda.
Voilà, donc, et les bourrelets, parce qu'on est un petit peu pris par le temps, les bourrelets, vous disiez, ils sont moins dangereux, ceux-là.
Alors, la bonne nouvelle, c'est que c'est un gras totalement inoffensif, qui est même très bon pour notre santé. C'est notre kit de survie, il nous rend plein de services. C'est le premier arrivé, c'est le dernier parti, il s'accroche toujours celui-là. Donc, il ne faut pas essayer de le faire partir à tout prix par des régimes imbéciles et très restrictifs qui vont au contraire faire se développer la graisse profonde. Donc, ce petit bourrelet, moi je dis qu'il faut l'accepter, il faut l'aimer. Quand on maigrit de la graisse profonde et c'est très bien comme ça. Et moi, à toutes les femmes qui nous écoutent, je dis profitez de l'été pour apprendre à aimer votre corps, à aimer vos rondeurs. Moi, personnellement, je trouve qu'il n'y a rien de plus beau qu'une femme un peu ronde, bien maquillée, bien habillée et bien dans sa peau.
Merci beaucoup, Laurence Plumet. Merci beaucoup d'avoir été en ligne avec nous. On rappelle le titre de votre livre, Le monde merveilleux du gras. C'est un livre pédagogique et drôle qui est paru chez Erol. Merci.
Europe 1, Anne Le Gall.
Vous écoutez Sans Rendez-vous, votre émission Santé, Bien-être. Et dans cette dernière séquence de l'émission, nous parlons intimité avec vous, Damien Mascret. On rappelle que vous êtes médecin sexologue et vous vouliez aujourd'hui nous parler des pièges du porno.
Exactement, Anne. Alors, entendons-nous bien, le porno peut très bien pimenter la vie de couple ou même d'ailleurs en solo. Ça peut avoir son intérêt pour ceux qui aiment en regarder. Mais aujourd'hui, c'est trois pièges du porno sur lesquels je voudrais attirer votre attention. Et d'abord, bien sûr, son effet normatif.
C'est-à-dire, c'est toujours la même chose ?
C'est à la fois la même chose et c'est à la fois différent. C'est la même chose parce qu'il y a vraiment un scénario assez typique, assez classique, qui va des préliminaires au plaisir masculin et en général tout s'arrête après. En réalité, on peut commencer à oublier cette idée de préliminaire. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se préparer d'une certaine façon, on va en parler. Mais il faut quand même oublier aussi cette notion que tout doit forcément suivre comme ça, entrée, plat, dessert, éventuellement la petite boisson après. Non, on n'est pas obligé de suivre un scénario aussi figé. Or, dans le porno, classiquement, c'est ce qui arrive et beaucoup ont l'impression que c'est ce qu'il faut faire parce que la sexualité, c'est quand même un des domaines dans lequel, en principe, vous êtes totalement libre avec votre partenaire ou vos partenaires de faire ce que vous voulez. Et en réalité, c'est un des domaines où on est parfois les plus traditionnels à suivre ce qui nous a été recommandé, ce qui nous a été conseillé. Donc, il y a un effet normatif très fort. Et en même temps, je dis non, c'est différent parce qu'on sait aussi que beaucoup vont avoir finalement une variété, c'est-à-dire qu'ils vont au contraire en profiter pour élargir d'une certaine façon leur répertoire sexuel. Donc là, ça peut avoir un effet utile si on veut, puisqu'on va pouvoir proposer des choses à son partenaire. Bien sûr, le consentement sera indispensable. Quand on propose, l'autre dispose.
Donc oui, pour trouver des idées, mais il ne faut pas se fier au côté normatif. Alors ça, c'est le premier piège. Le deuxième ?
Le deuxième, c'est qu'il y a un double visage dans le porno. C'est à la fois réaliste et irréaliste. Alors le côté réaliste, c'est que, et notamment pour les hommes, à l'évidence, l'homme est dans un état d'excitation parce qu'on ne peut pas faire semblant, évidemment, d'avoir une érection. Maintenant, on sait qu'on peut avoir des produits, la chimie est là, on peut même avoir des injections intracaverneuses, c'est parfois utilisé dans le porno, ce qui peut permettre effectivement d'avoir des érections complètement irréalistes qui vont durer très longtemps alors qu'on sait
ça
très bien...
Ça reste du cinéma.
Ça reste du cinéma, mais justement, le téléspectateur, lui, on a beau lui dire c'est du cinéma, il a beau répéter c'est du cinéma, en réalité, il se dit ouais, c'est peut-être du cinéma, mais quand même, on voit bien que ça marche. marche. On voit bien que c'est comme ça que ça marche. Et là où ça peut être effectivement dangereux, c'est que parfois, on peut avoir des schémas comme ça, des scénarios, j'en parlais à l'instant, qui vont s'imposer avec des partenaires qui vont prendre du plaisir avec des choses qui ne sont pas du tout plaisantes, pas du tout agréables. Ça peut être de la douleur, ça peut être du manque de respect, de l'humiliation, des choses comme ça. Alors évidemment, ça arrive que certains développent une sexualité autour de ces pratiques, mais il faut quand même rappeler que c'est plutôt rare et que la plupart des gens n'apprécient pas ces genres de pratiques. Et en tout cas, ceux qui ne l'apprécient pas ne doivent pas s'y adonner, tout simplement parce qu'ils pensent que c'est la norme. Donc, il faut se méfier de ce double visage du porno, à la fois réaliste et irréaliste.
Donc, ce que vous nous dites, c'est que le porno, il faut avoir à l'esprit que ce n'est pas la réalité.
Ben voilà, c'est un peu le plus grand défaut du porno est un peu là, c'est que on va bloquer d'une certaine façon la créativité parce que eh bien même si je disais il y a quelques instants que certains variaient les plaisirs, beaucoup ont tendance à être un petit peu monomaniaques. Hein, je parle évidemment des consommateurs de porno, c'est-à-dire à toujours regarder les mêmes choses et donc finalement à inculquer à leur esprit une éducation érotique qui est complètement ciblée sur une pratique, sur un type de rapport, sur un type de situation et ne laisse plus la place finalement, ne laisse plus d'ouverture, ne laisse plus de possibilités à la fois à la créativité, à l'imagination de leurs partenaires et ça c'est dommage.
Merci beaucoup Damien Mascret. Les meilleurs conseils pour votre santé et votre bien-être, on les partage tous les jours de 15h à 16h dans 100 rendez-vous sur Europe 1. Demain le dossier du jour sera consacré à notre sommeil et vous nous parlerez aussi Damien de sexologie et de transpiration, je crois.
Ça va
oui, c'est
ensemble.
Ça. Merci beaucoup à vous, Damien Mascret. Merci à Maryse Jacquet et Benjamin Lévesque qui m'ont aidé à préparer cette émission. On se retrouve demain à 15h. En attendant, je vous laisse en compagnie de Philippe Gougler.